Mon cher Hugues, pourquoi les chansons et les musiques sont-elles absentes du podcast ?
Ah, c'est une question de droit d'auteur, mon cher Rudy. On vous donne le teaser, mais l'action complète, c'est sur ovio.be.
Donc ici, c'est une sorte d'avant-goût. Et là-bas, sur ovio.be, c'est le festival complet.
La première.
19h-20h.
La semaine de 5 heures.
Hugues Daillé, Rudy Léonet.
C'est toujours très intimidant d'arriver après ce monsieur qui dit « La première, j'y arrive pas, la première, j'y arrive pas ».
Il faudrait demander au gars américain qui fait la voix de toutes les bandes-annonces.
Il y a un film qui s'appelle In a World.
Sur lui, hein, oui.
Bah, sur
cet univers.
Cet univers des créateurs de bandes-annonces.
Oui.
Et dont une fille qui veut se lancer dans le métier et qui, évidemment, se voit barrer la route par toutes ces voix gutturales.
Gutturales.
In a World. Qu'il ne voit pas du tout.
Arnold Schwarzenegger. Bruce Willis.
Et c'est là qu'on apprend que les types qui décrochent une franchise, c'est...
C'est Win for Life.
Ah, c'est Win for Life.
C'est Win for
Life.
Parce
qu'ils sont assurés d'avoir les bandes annonces de toutes les suites de la série.
Ah oui, de la franchise. Ouais, ouais.
Bon, ceci nous éloigne de...
C'est un pré-générique.
Oui, ouais, parce qu'il a beau dire
voilà,
la première, mais il n'arrive pas à dire bonsoir, mon cher Hugues.
Bonsoir, mon cher Rudy.
Et bonsoir à Guillaume de Smet qui nous rejoint ce soir, au moins jusqu'à 20h.
Et...
Sauf si vraiment il n'en peut plus.
Oui,
il pourrait éventuellement s'en aller avant, mais...
Non, parce qu'il y a toujours l'aiguillon de la curiosité, déjà de la curiosité des découvertes musicales.
Oui.
Où allons-nous Sur quel terrain allons-nous aller aujourd'hui?
Oh, un terrain connu pour
Quelle
ouvrir.
Quelle place de concert devons-nous réserver?
On va aller sur un terrain connu. On l'avait déjà écouté ici à travers une chanson partagée avec... surprise, Claudia Brücken de Propaganda.
Oui, ah mais notre ami Michel Mours.
Notre ami Michel Mours.
Un des membres du trio Telex.
Voilà, pierre angulaire du triangle Telex.
C'est-à-dire que celui qui devait chanter, quoi.
Oui.
Pendant que Marc Boulette était au clavier et Dan Laxman fumait le cigare.
Fumait son bâton de chaise. Les deux derrière faisaient un peu du shoegazing de clavier, c'est-à-dire regarder par terre.
Oui.
Si possible, de trois quarts profil.
Oui.
Pour éviter d'être de dos, mais c'est pas l'envie qui manquait. Alors qui allait au front?
Michel Mours.
Voilà.
Michel Mours.
Michel allait au front. Et tant qu'à aller au front, il sort ces jours-ci un album solo dont on a écouté cette chanson partagée avec la voix de Propaganda. L'album est arrivé, il s'appelle Ace Ice. Donc... des artificielles intelligences. Ace. Et sur cet album, une chanson évidemment électronique et évidemment avec un titre très très connoté de l'univers numérique qui lui tient à cœur. Elle s'appelle Pixel, c'est Michel Mours. Pixel parmi les pixels, c'était Michel Mours.
Bien.
Donc grain de sable, nous ne sommes qu'un grain de sable, nous ne sommes que poussière, nous ne sommes que pixels.
Michel est conceptuel. Hein. Bien, hier soir, je vous évoquais un étonnant film danois, de suédois qui nous emmenait aux confins de la Laponie. Eh bien, je vais rester en Suède aujourd'hui, mais avec une atmosphère totalement différente. Vous savez aussi que dans l'économie de cette émission, vers la dans la deuxième partie de la semaine, je vais vers les plateformes.
Vous voulez
gratuites,
qu'on ouvre un
public.
Crowdfunding pour
non,
vous offrir
non,
des
non,
plateformes
pas du tout. C'est la diversité dans toute sa splendeur. Et donc, Arte, le site d'Arte vient de mettre en ligne une série de 6 épisodes. Ils ont choisi comme titre Dreaming of England, qui pourrait faire croire à une série anglaise. Non, non, c'est une série suédoise. Le titre original, c'est Sommarn, et puis 85. Été 85. Et c'est une série écrite et réalisée par deux femmes, Denise Caraboud et Emma Ambers. Et c'est une série, j'ai envie de dire, 100% féminine, dans la mesure où on va suivre le destin de trois femmes d'une famille, mais de trois générations, une grand-mère, sa fille et sa petite-fille. Alors, la grand-mère, Barbre. Alors oui, c'est très important.
Elle s'appelle Barbre.
Barbara, Barbre.
Barbre.
Et très important, donc on était en 85, mais on est dans une petite bourgade, Braxinghe, où il ne se passe résolument rien. Mais vraiment rien. Il y a juste un hôpital psychiatrique. Et donc, cette petite bourgade veut créer l'événement. Et le comité des fêtes, qui est dirigé par Barbre, la grand-mère, a une idée, mais vraiment épastrouillante. Ils vont faire une fête de la saucisse. Et ça, c'est vraiment, vraiment top. Oui, c'est vraiment bien. La saucisse
jusque-là,
artisanale.
Jusque-là, on comprend pourquoi la série est offerte gracieusement par Arte. Voilà. Jusque-là.
Trois générations. Donc, Barbre, alors cette grand-mère est terriblement... En fait, elle est terriblement frustrée sexuellement. Il ne se passe plus rien dans son couple. Et donc, quelque part, elle déplace sa frustration en s'immisçant beaucoup dans la vie des autres. D'abord, donc, elle est dans ce comité des fêtes. Et puis, surtout, elle est terriblement intrusive dans la vie de sa fille, Az. Et sa fille, elle, est infirmière. Elle a élevé seule sa propre fille adolescente, Léna, et ne supporte absolument plus que sa mère, qui a les clés de son appartement, fasse des intrusions pour un oui ou pour un non. Donc, les rapports sont très, très, très difficile avec cette femme indépendante qui vit très, très modestement. Et là, c'est justement, je trouve que la première partie de la série est vraiment intéressante. Ça parle des difficultés de cette mère d'assouvir les rêves de sa propre fille. Parce que sa fille ne rêve que d'une chose, c'est d'aller en séjour linguistique l'été, donc Dreaming of England, d'aller à Hastings et de pouvoir partir avec sa classe en car scolaire, dans une famille d'accueil. Simplement, ça coûte 5000 couronnes et la pauvre maman ne les a pas. Et la seule solution pour les avoir, c'est de multiplier les heures supplémentaires dans l'hôpital psychiatrique où elle est infirmière. Malheureusement, un nouveau directeur inflexible veut complètement supprimer ces régimes de faveur, en tout cas ces régimes spéciaux permettant d'accumuler les heures supplémentaires. Donc, toute la première partie de ces 6 épisodes, c'est comment réunir les fonds. Donc le titre finalement, Dreaming of England, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'Angleterre, mais on est encore loin d'y être. Et donc la troisième figure féminine de cette série, c'est donc la petite fille, la fille adolescente qui rêve de son séjour à Hastings et qui a une amitié absolument fusionnelle avec une copine de sa classe. Hélas, la copine de sa classe va quelque part la trahir pour sortir avec un garçon beau mais parfaitement crétin. Et donc le duo devient trio avec jalousie, séparation, trahison. Donc il y a à la fois un portrait des désirs et des fantasmes d'adolescents, le portrait de la fille mère qui a du mal à joindre les deux bouts et qui a toujours éduqué sa fille seule parce que le père l'a abandonnée et a créé une autre famille. Et puis donc cette grand-mère, Barbre, qui est terriblement intrusive.
Oui, parce que vous dites du mal à joindre les deux bouts. Et donc le Bertrand N qui sommeille en moi vient de fact-checker 5000 couronnes suédoises. Je me dis, wow, ça claque comme ça, mais c'est 429 euros.
Donc, à l'époque, en 85, 16 000 francs belges, quand même. Oui. Donc, en 85.
Presque 20 000 francs.
Ça représente quand même quelque chose.
Oui, c'est une petite somme.
C'est une somme. Alors, c'est comment? Mais d'abord, l'image, c'est Braxinghe. On comprend que ce ne soit pas une destination touristique hors pair.
Vous l'avez bien vendu.
Ça semble un peu, malgré la...
Moi, je trouve que sur booking.com, ça clique. clique à tout va.
Malgré la prometteuse fête de la saucisse, esthétiquement, ça ne fait pas rêver. Donc, on est dans une série un petit peu réaliste, triste ou nette, mais sauvée par une image assez kitsch. Et on a l'impression un peu, quand on voit justement cette jeunesse de province qui s'ennuie, de se retrouver un peu dans le cinéma français. Parce que la série date de 2020, mais donc a restitué cette atmosphère avec la mode de l'époque.
Et on a un peu l'impression de se retrouver dans les portraits d'adolescents du cinéma français des années 70. Ben, les oiseaux de Pascal Thomas, Pleure pas la bouche pleine, sans qu'il y ait autant de poésie et d'inspiration que chez Pascal Thomas, mais cette espèce de volonté que, ben, quelque part, Diabolomante n'était montré aussi une jeunesse pas forcément folichonne. Donc, la tonalité de vraiment de la première partie, je la trouve très, très attachante parce que très réaliste. Parmi les bémols, le bémol, c'est que, on aurait aimé quand même une musique un peu moins pourrie. C'est-à-dire qu'en permanence, on a l'impression qu'on va avoir des tubes de l'époque, mais ils n'ont visiblement pas eu les droits. Donc il y a une espèce de copie des introductions des morceaux de Secret Service qui n'arrivent jamais. On a Flash in the Night, on se dit on va avoir Flash in the Night, ça n'arrive jamais. Et alors évidemment il y a la partie en Angleterre, parce que la jeune fille va quand même réussir, je ne dirais pas comment, mais à aller à Hastings. Et là elle croise, elle voit un magasin de disques avec des post-punk de l'époque, on s'attend à avoir une BO de ouf. Rien du tout, il n'y a pas d'argent pour le poste bande originale. Et donc, ça, c'est terriblement frustrant.
Tout a été dépensé dans la saucisse.
On s'attendrait à du ABBA quand on est à Suède. On s'attendrait à... pas possible. Oui, enfin, non, même déjà du Secret Service, oui. C'était quand même beaucoup moins cher. Mais non. Donc, la musique, tout le temps, c'est un peu du coitus interruptus. Il y a des intros, on se dit, ça va déménager. Et ça ne déménage pas. Et l'autre bémol que je peux avoir, par rapport à cette série donc attachante et très féminine, c'est que au départ ça démarre de manière douce, amère, assez réaliste et assez fine, mais on sent que le tandem de réalisatrices voulait quand même que ça soit bien familial et bien mainstream, et ça vire vers une sorte de happy end un peu plaqué, et il faut quand même tout emballer en 6 épisodes, et le 6e épisode, on a l'impression que beaucoup de problèmes se résolvent comme par un coup de baguette magique. Or, ce n'était pas la tonalité du reste de la série. Donc, la série change de nature. Et ça, bon, dans une comédie romantique, on sait que ça va bien se terminer. C'est juste le chemin qui est... Bon, clairement, on n'était pas non plus dans un film réaliste à la Frère d'Ardenne, mais on était dans quelque chose de plus subtil, de plus juste psychologiquement.
Oh, la fête de la saucisse, je la vois bien à Sraire.
Ah, oui.
Ouais.
On va leur suggérer. Un truc un peu festif. Donc, Barbre, Aza,
du boudin,
Elena.
Du boudin blanc.
Dites, n'oubliez pas qu'on va à Liège ce soir.
Oui, c'est vrai. Et alors
On
n'a rien dit de mal.
Non, pas du tout. On va peut-être leur suggérer.
Ou un truc avec des boulets.
Les boulets. Bah,
la fête aux boulets. Ça doit exister, la boulet. Fête aux boulets.
Oh, ouais. Le boulet de chez Lequet.
Bah, vous avez déjà essayé un boulet sur barbecue, c'est pas possible.
Non.
Surtout avec la sauce.
La sauce lapin.
Oui.
C'est évident. Donc voilà, Barbre, Atha et Lena sont les 3 héroïnes de cette mini-série. Alors, le titre, vraiment pour la repérer, parce que ça reste
oui,
très
distrayant. Vous allez nous le dire en suédois.
Sommaren, et puis 85, je ne sais pas comment
on dit. Non, Sommaren, c'est un meuble Ikea, vous devez vous tromper.
Sommaren, c'est été. Et donc, le titre, sur comment est-ce qu'on la trouve? Eh bien, sous un titre anglais inventé par Arte, Dreaming of England. Donc, malgré tout, distrayant avec des personnages attachants.
Et de la saucisse.
Et de la saucisse, oui.
Et une BO décevante.
Une BO pas top, ouais. Pas top. Voilà, mon cher Rudy, pour des suggestions.
Écoutez,
pour le
bien.
Week-end qui arrive.
Je trouve que ça
a
de l'ambition.
Écoutez, vous allez du côté des séries coréennes. Moi, je vais du côté de la saucisse de Brad Singer.
Hein. Je vais aller dans pas longtemps sur une comédie romantique, justement, qui tient ses promesses, c'est-à-dire qui se termine bien.
Ah, d'accord. Voilà. Très bien.
Et donc, je ne vous raconterai pas la fin, puisque de toute façon, vous l'avez deviné avant même qu'on ait exposé le scénario.
D'accord.
Ceci étant, vous parliez de comment ce village
Braxinger.
Oui. Moi, je voulais vous parler de Kortrijk.
Oui.
Donc, juste ici.
Oui,
voilà.
Oui.
Je ne sais pas s'ils ont une fête de la saucisse.
Ils ont
mais ils ont un groupe qui s'appelle Goose.
Ah,
et ce groupe...
Goose.
Groupe de Kortrijk qui fête ces jours-ci ses 20 ans d'existence et qui sont un peu atypiques dans le paysage flamand parce qu'ils pratiquent une musique... plutôt à tendance électronique, qui n'est pas forcément le premier réflexe des musiciens flamands, qui vont plutôt d'abord vers les guitares.
Hein.
Oui, même si ça s'est Ça s'est un peu tassé. Il y a eu une évolution, évidemment, toute logique vers des samples et des claviers, mais pas vraiment sur de l'électro qui avance de façon totalement démasquée. Donc c'est plutôt du côté des solo acts avec lesquels ils ont quelques accointances qu'il faut les chercher. Et à un moment de leur carrière, Goose avait même été repéré par Fatboy Slim, qui avait sorti quelques-uns de leurs disques sur son label Skint, donc un groupe qui a compté et qui fête bientôt ses 20 ans d'existence, les 20 ans de la sortie de leur premier titre. Et ces 20 ans, ils vont les fêter le 16 novembre prochain au Lotto Arena. Capacité
8050 places.
Oui. Quelque chose en configuration ça. Concert.
En configuration stade, c'était 5000, je crois.
Stade sportif, oui. Lorsqu'on doit libérer le terrain.
Tout ce que je dois retenir.
Oui. Pas mal, oui, mais je vois que vous suivez.
C'est-à-dire que je me drille pour la COD. Hein. Il faut quand même que mes cellules grises fonctionnent à plein régime.
Et donc, pour souhaiter un bon anniversaire, mais on n'en aura pas fini avec eux. Ah. On en reparlera juste après. À Goose, et à leurs 20 ans, et à leur concert le 16 novembre, on va les réécouter avec Sunrise, un de leurs titres emblématiques. Avec Sunrise, et ils fêtent leurs 20 ans d'existence. Et donc, comme beaucoup de groupes, vont reproposer leur parcours musical lors d'une soirée événement.
Mais c'est bien légitime à une époque où rien ne dure. Où c'est
Regardez les deux types de la radio avec leur tournée 30 ans de COD.
Oui.
C'est rien d'autre que ça.
Sauf qu'on n'est pas l'Auto Arena tout de même.
Non, et on n'a pas fait de tube.
Non.
Si vous avez quand même des tubes, quand on vous demande un Spielberg, là vous sortez quand même un tube avec des refrains connus ou un Disney.
Et puis il y a quand même la Carapils.
Et la Carapils, c'était votre tube personnel.
Bien.
Et Kung Fu is an art.
Kung Fu is an art, oui, très important.
Et vous avez un autre tube, c'est quand vous parlez des comment les vieux dessinateurs de Disney.
Les Nine Old Men.
Les Nine Old Men, ça c'est votre refrain. Toute la salle reprend en cœur les Nine Old Men.
C'est vrai.
Avec le GSM allumé.
C'est vrai. Ah ouais. C'est vrai. Mais on appelle ça des marottes. Bon, c'est plus que
des tubes.
Tubes
Et donc, ce sont un peu vos greatest hits. Et The Greatest Hits, c'est le titre d'un film dont je voulais vous parler, qui est arrivé sur Disney+, je crois que ce week-end.
Et qui est forcément musical.
Qui est forcément musical. Alors, pourquoi je suis allé sur ce film? D'abord parce que son illustration, c'est des tas de pochettes de disques.
Bah oui.
Je me suis dit, tiens,
alors
c'est
marrant. Alors, vous foncez.
Ouais.
Moi, je fonce vers la fête de la saucisse.
Non.
Vous foncez vers des pochettes d'albums.
Non, je vois des disques, j'y vais.
Oui.
Mais là où je fonce, c'est quand je vois le casting du film et je découvre qu'en tête d'affiche de ce film, non pas une série, mais film, il y a Lucy Boynton.
Oh,
alors là, je fonce.
Qu'on avait découvert dans Sing Street.
Le tout droit sorti de la boîte à chatons, exactement.
Qu'on a
vu dans Sing Street. Vu dans
Bohemian Rhapsody.
Oui, c'était la petite amie officielle, historique, et qui a été sa légatrice.
Oui, qui gère les affaires,
de Freddie. De Freddie Mercury, absolument.
Oui, donc Lucy Boynton, mais surtout elle chère à notre cœur à cause de Sing Street.
De Sing Street. Oui, et manifestement, cette jeune fille est abonnée aux films qui ont un rapport direct, immédiat avec la musique.
Ça, c'est dû à l'absence d'imagination des producteurs. Tu l'as fait, tu vas pouvoir le refaire. C'est très, très, très difficile. Quand on a démarré là-dedans...
C'est compliqué.
Compliqué. C'est compliqué. Les étiquettes sur les acteurs, les jeunes acteurs, tu l'as très, très bien fait. Donc, tu vas pouvoir le refaire. Oui, mais je voudrais faire autre chose. C'est comme quand on joue un rôle de méchant, on est foutu. Hein. Christoph Waltz, qui a joué l'officier nazi dans Inglorious Bastards, passe sa carrière à jouer les crapules. Donc c'est très, très, très difficile d'en sortir. Mais donc, Lucy Boynton.
Donc c'est l'atout majeur du film.
Oui.
C'est la musique et surtout Lucy Boynton. Le pitch, je vous raconte. On est vraiment dans un film fleur bleue à l'eau de rose, comédie romantique totalement assumée. On suit la jeune Harriet. Et on découvre que cette jeune fille a une sorte de... Enfin, elle se balade partout avec un casque sur les oreilles. Mmh. C'est un casque dans lequel elle diffuse de la musique, mais de la musique qui va la protéger d'autres musiques qu'elle pourrait entendre accidentellement, parce que lorsqu'elle entend des musiques qui lui évoquent des moments de sa vie, elle les revit pour de vrai. C'est-à-dire que la musique a ce pouvoir d'évocation très très fort chez elle. On l'a un peu, tout le monde a ce pouvoir. La musique est très très forte pour s'insinuer.
Comme dirait Roger Hodgson, c'est la bande originale de notre vie.
Exactement. Voilà. Et on peut fermer les yeux, mais pas les oreilles. Et donc, quand on entend parfois des musiques, comme on dit, ça remue. Ça fait penser à des choses. Ça reproche, oui. Ou ça met en joie, ou ça met en mélancolie. Elle, en tout cas, ça la met en grande tristesse et en grand désarroi parce que elle a vécu une grande histoire d'amour autour de la musique, parce qu'elle a rencontré son petit ami lors d'un festival. Ils étaient tous les deux très liés par leur amour de la musique, et il est décédé dans un accident de voiture. Et donc elle se retrouve seule, désespérée, avec sa collection de disques qu'elle réécoute régulièrement, parce que ça la replonge dans une ambiance et des moments heureux qu'elle a connus. Mais lorsqu'elle entend ces musiques accidentellement au restaurant, dans un magasin, en voiture, et que ce n'était pas prévu, tout à coup, elle se replonge là aussi dans ses souvenirs.
Et c'est montré en flashback.
Exactement. Elle bascule vraiment dans des moments de sa vie antérieure où elle observe des choses, elle revit des choses, et ça lui crée un véritable problème psychologique, jusqu'à ce que...
Elle rencontre un nouveau garçon.
Vous avez écrit le scénario ?
Non, mais je connais bien ma Bible Richard Curtis.
Absolument, elle rencontre un nouveau garçon, et donc elle veut absolument se débarrasser de pouvoir enfin enlever ses écouteurs et s'ouvrir à autre chose et ne pas rester enfermée dans ce cycle infernal de ses greatest hits qui la ramène inlassablement à des épisodes antérieurs de sa vie.
Mais justement, contrairement à Dreaming of England, où il n'y a pas de sous pour les morceaux et où la musique est pourrie, ici, est-ce que le titre du film est prometteur et est-ce qu'on entend des choses délicieuses ?
Formidable. Une BO absolument formidable, parce que non seulement Harriet, elle écoute de la musique, mais elle est pote avec son meilleur pote, tient un magasin de disques, mais surtout elle écoute de la très très bonne musique. Ça ouvre sur The 2, puis on entend The XX, on entend Beach House, et puis de façon plus nostalgique, plus vintage, on entend Ten CC. Elle fait un magnifique karaoké sur Ten CC, I'm Not In Love. On entend Roxy Music. Oui, il y a d'ailleurs une très très jolie idée autour d'un disque rare de Roxy Music qu'elle veut acquérir, mais que son fiancé potentiel voudrait également acquérir, et donc il décide de l'acheter à deux et de faire une garde partagée du disque, et c'est ainsi qu'ils créent un lien, qu'ils échangent leur téléphone. C'est une très 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 jolie idée de scénario.
Écoutez, moi je vois que c'est réalisé, j'ai pas encore vu le film, vous me le faites découvrir, je vois que c'est réalisé et scénarisé par Ned Benson. Et Ned Benson, il a connu le pire et le meilleur dans sa courte
le
carrière.
Le pire, Black Widow,
c'est ça, Black Widow qui a...
Scénariste de Black Widow, donc
qui a coûté fort cher
un des pires Marvel de l'histoire,
qui a été très problématique avec Scarlett Johansson, qui a secoué le cocotier. Donc je pense qu'il doit se refaire avec un petit projet trop cher.
Et le meilleur,
c'était The Disappearance of Eleanor Rigby, qui était un film, un diptyque avec Jessica Chastain. Et c'était l'histoire d'un couple et aussi d'une rupture, mais avec le point de vue de la féminin et le point de vue masculin. Et les deux films pouvaient être montrés en parallèle et dans l'ordre selon le choix du spectateur. Donc c'était une sorte de concept de cinéma américain indépendant qui avait permis à Ned Benson d'émerger dans le territoire du cinéma indépendant. Et puis il a été englouti dans Black Widow. Et donc maintenant... il essaye de sortir de cet engloutissement avec un film, à mon avis, d'ambition relativement modeste, mais avec une bonne BO, comme vous l'expliquez.
Ouais, une très, 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 très bonne BO. Roxy Music, non seulement on les entend, mais Brian Ferry participe.
Il vient dire bonjour.
Il y a aussi une
scène. Il n'a pas trop mal au dos.
Il est assis. Oui, oui. Et ils sont, enfin, tout Roxy Music participe au film. Il y a une scène aussi où ils écoutent Nelly Furtado, I'm Like a Bird. Et voilà, Nelly Furtado fait également une apparition dans, dans ce film. Et puis, on découvre aussi des versions de chansons assez, assez rares parce qu'ils sont passionnés de musique, mais aussi de musique qu'on n'entend pas partout. Ils cherchent, ils chinent dans des brocantes chez des disquaires. Il y a notamment une version que je ne connaissais pas d'une chanson de Cure, Friday I'm in Love, et elle est interprétée par Phoebe Bridgers. Vous savez, cette musicienne américaine qui tourne beaucoup, et notamment avec son groupe, son trio féminin. On les a vus à peu près partout dans tous les festivals récompensés aux Grammy Awards. Et donc, elle s'était fendue d'une reprise de Cure il y a quelques années, et cette reprise a été exhumée pour la bande originale de The Greatest Hits, ce film avec Sophie Boynton, Lucy Boynton,
Lucy Boynton,
qui est face à un acteur américain-coréen qui s'appelle Justin Min et que les amateurs ont vu dans Umbrella Academy, qui est une série Netflix avec des personnages qui ont des super pouvoirs. Voilà, The Greatest Hits avec entre autres cette reprise de Cure par Phoebe Bridgers qu'on écoute. C'est joli, non ?
Oui, et je me faisais la réflexion. J'ai pas le sentiment, mais vous êtes beaucoup plus connoisseur que moi, j'ai pas le sentiment que The Cure est souvent repris.
Non, c'est rare.
C'est un univers en soi, finalement, difficile à reprendre.
Ouais, un peu Love Cats, parfois.
Ouais.
Oui, mais...
difficile
à
reprendre.
Il y a quelques titres de Cure qui ont des formats très chansons, qui sont plus praticables, mais la plupart sont vraiment... en propriété de Cure, et c'est très 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 compliqué de les réaménager.
On ne va pas reprendre Flow West, quoi. Ça n'a aucun intérêt de changer l'orchestration. D'accord, mais vous répondez
donc
à ma question.
Vous imaginez Lucy Boynton plus une reprise de Cure par Phoebe Bridgers.
Bah vous y allez, oui, bien plus facilement qu'à la fête de la saucisse.
Ces trois minutes valent le film entier.
Mais voilà, on va rester dans le domaine musical, mon cher Rudy, et on va aussi continuer dans le domaine médical, parce que nous avons une semaine...
Musical et médical.
Musical, nous avons une semaine riche. Hein. N'oublions pas que nous avons parlé de d'hirsutisme avec Rosalie. Nous avons parlé de hypertrichose avec
Wolf
Boyer.
Oui, nous sommes allés plus loin dans le dossier. Oui. C'est
aujourd'hui,
exact.
Nous allons changer, nous allons parler de synesthésie. Selon la définition du grand Robert, la synesthésie est un phénomène perceptif dans lequel une sensation objectivement perçue s'accompagne d'une ou de plusieurs sensations supplémentaires dans une région du corps.
C'est des gens qui voient des couleurs lorsqu'ils écoutent de la musique.
Voilà.
Ça existe, hein ?
Oui, tout à fait. Et ici, le personnage principal atteint de synesthésie, c'est une histoire vraie, c'est réalisé, écrit et joué par un certain Rudy.
Mais quel merveilleux prénom.
Quel merveilleux choix, oui. Rudy, il s'appelle Rodolfo, mais il a préféré Rudy. C'est-à-dire qu'il est brésilien, mais il fait carrière aux USA. Donc, Rodolfo est devenu Rudy. Rudy Mancuso. Et donc, film qui arrive, qui s'appelle tout simplement Musica, qui est arrivé dans les inédits de Amazon Prime. Inédit pourquoi ? Mais ça fait partie du fameux catalogue Metro-Goldwyn-Mayer. Vous savez que Prime a racheté Metro-Goldwyn-Mayer avec énormément de films qu'il brade. Et bon, ici, a priori, c'est effectivement plutôt destiné au public américain, au public latino, mais ce n'est pas inintéressant. L'histoire de ce Rudy Mancuso. Alors, dès le début du film, il est marqué « Based upon a true story » et puis il est marqué « Hélas ». Donc, il parle de son problème de synesthésie. Et quel est le problème de ce Rudy Mancuso ? Eh bien, on le voit faire des études de marketing qui l'ennuient. Il a une passion pour la musique, pour les marionnettes aussi. Il fait un spectacle de marionnettes dans le métro.
C'est tout moi, hein.
Ouais. Il a là où il est différent de vous, c'est qu'il a une coiffure à la Prince, c'est-à-dire une espèce de pièce montée verticale comme ça. L'ami Rudy Mancuso. Et sa forme de synesthésie se traduit par le fait que il a une ouïe particulièrement développée et ça lui provoque quelque part des troubles de l'attention parce que on voit quand il est dans un parc avec sa petite amie, mais en fait tous les bruits du parc, que ce soit les basketteurs, les oiseaux, le bruit des feuilles, tout devient quelque part perçu comme rythmique et comme musique. Donc immédiatement, ça lui donne des idées de mélodie et il a une espèce de douille super surdéveloppée. Mais et comment traduire ça en image? Eh bien, justement, c'est là que le film est assez inventif et lorgne un petit peu vers un climat à la Damien Chazelle, c'est-à-dire que le film de temps en temps bascule vers une sorte de d'onirisme et de numéro de comédie musicale, parce que on comprend justement de manière subjective ce qui se passe dans la tête de ce Rudy Mancuso quand il vit des situations ordinaires, mais où il est assailli par des bruits de toutes sortes, et quelque part, il en fait effectivement... Enfin, il imagine
donc il a
immédiatement...
un gros déficit d'attention, le garçon.
Alors, oui, il a des gros déficits d'attention. Pour ses études, c'est aussi assez compliqué, parce qu'il suffit qu'il y ait une fille qui tape avec son bic sur le truc. Et il n'a pas seulement une coiffure à la Prince, il a des rythmes de Prince dans la tête. Donc, problème pour vivre sa vie quotidienne. Alors, là aussi, on rejoint ce que vous disiez avec The Greatest Hits, il y a une petite dimension de comédie romantique, parce qu'en fait, il a une petite amie à l'université, mais une petite amie américaine pur jus, fille de très 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 bonne famille, qui fait déjà des plans pour deux, et en fait, lui n'ose pas lui avouer que il a vraiment envie de faire une carrière de saltimbanque, soit de montreur de marionnettes, soit de musicien, soit les deux, mais en tout cas pas d'être rangé et de continuer dans ses études de marketing. Et il est avec une mère brésilienne qui est très 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 possessive, qui essaye de le caser avec une bonne brésilienne de préférence. Donc il y a à la fois le garçon qui a des problèmes pas de handicap, mais en tout cas de différence, et en même temps qui est très timide et qui veut être gentil avec tout le monde et qui n'ose pas dire non. Et ça donne une comédie romantique assez rythmée avec, je trouve, sur le plan visuel, vraiment des trouvailles. Il y a des choses très, très inventées. C'est un peu foutraque, ça part un peu dans toutes les directions, mais je ne dis pas qu'il y a du Michel Gondry, mais en tout cas, il y a des numéros musicaux. Il y a parfois le fait que on passe d'un décor à l'autre avec une convention théâtrale, c'est-à-dire qu'il passe presque d'un plateau de cinéma à l'autre pour montrer le tumulte de sa vie, qu'il est écartelé entre sa mère, sa petite amie américaine, une jeune femme brésilienne avec qui il a beaucoup, beaucoup plus d'accointance et de complicité. Et tout ça est mené tambour battant. Là aussi, on est devant un film assez bref. Alors, je me suis demandé qui est ce Rudy Mancuso. Il a effectivement accompli son rêve, en tout cas de marionnette. Il a un spectacle qui s'appelle Awkward Puppets. Donc
bientôt chez Bouli.
Oui. Awkward.
Bientôt Almoutroul, à la couverture chauffante.
Voilà. Awkward Puppets, c'est des sortes de... on voit un spectacle où il raconte justement les problèmes de sa vie. C'est des sortes de moupettes, mais pour adultes, qui évoquent des problèmes existentiels avec des moyens esthétiques très très limités. Mais donc, il a réussi à créer cette espèce de compagnie Awkward Puppets qui a fait sa popularité sur YouTube, et de temps en temps, il donne également des spectacles. Donc, personnalité tout à fait atypique, assez attachante, parce que je trouve que le film est totalement dénué de prétention, et une fois encore avec des très très jolies trouvailles visuelles. Il y a un moment où il y a carrément une scène d'animation. Enfin, on voit que le garçon, pour un premier film, avait envie de raconter sa vie, mais pas dans le self-pity, pas dans le nombrilisme prétentieux, mais plutôt pour
pas
en faire
quelque chose. Pas dans l'auto-apitoiement.
Voilà, plutôt pour en faire quelque chose d'assez joyeux et d'assez coloré. Et vous qui allez souvent chercher vers les les talents latinos, j'avais envie de.
Mais vous avez raison. Vous avez tort, c'est de ne pas nommer la jeune actrice qui lui
Camilla
donne.
Camilla Mendes. Vous la connaissez?
Sortie de la boîte à chatons.
Ah.
Oui, elle vient de la série Riverdale, pour ceux qui ont suivi.
Oui. Et donc, elle joue la jeune fille brésilienne.
Oui, puisqu'elle est d'origine brésilienne.
Avec qui il a beaucoup plus d'acquaintance qu'avec sa petite amie officielle américaine. Et il est écartelé entre ces deux jeunes filles qui ne lui veulent que du bien, mais lui ne sait, comme il ne sait pas qui il est, il ne sait pas exactement ce qu'il veut, eh bien évidemment il va très difficilement faire les bons choix.
Voilà. Eh bien, donc, ça donne envie.
Ça s'appelle tout simplement Musica. Et franchement, il a une chouette coiffure.
Moi, je me suis dit Musica, un biopic de Violetta. Eh ben non.
La Musica, non, c'est voilà. Donc Rudy Rodolfo, oui. Alias mieux connu sous le prénom de Rudy Mancuso, et donc il a tout fait, quoi. Il joue dedans, il a fait le scénario, il réalise. Voilà. Il a fait les marionnettes, ouais. Les awkward puppets. Et donc c'est un inédit, exclusivité Amazon Prime.
Formidable.
Récent.
Ça donne envie.
Récent. Voilà.
Ça donne envie. Je voulais revenir sur le groupe Goose.
Oui.
Donc qui fête ses 20 ans. Mais l'année passée, le groupe Goose, dont le chanteur est Michael Carcouz.
Ça, je me souviens.
Vous vous souvenez,
oui,
il
oui,
avait
oui.
délivré un album électro complètement, je dirais, à côté des conventions. En vrai, ce type qui vient quand même plutôt d'un, on l'a compris, hein, d'une filière qui est assez, assez radicale et sans compromis, a eu tout à coup le coup de foudre en voyant la nouvelle mouture de l'opéra rock de Michel Berger et Luc Plamondon, Starmania.
Oui.
La nouvelle version. Hein. Et c'est dit, mais la production, les arrangements, c'est dingue. Et c'est signé Victor Lemann, qui est un Français qui travaille beaucoup avec Eddie De Pretto, avec tous les gens de la French Touch et tout. Et donc, ensemble, mais c'est comique qu'ils soient rentrés dans l'univers de ce producteur-ingénieur par Starmania et pas par les choses qui sont plus familières, sans doute, à son univers et qu'il doit écouter sans savoir que c'est lui qui était à la manœuvre derrière. Et donc, ils ont ensemble réalisé un album fin de l'année dernière qui s'appelle Hello, qu'on a écouté ici. Moi, c'est un album que j'ai beaucoup, beaucoup écouté, mais manifestement, je suis un peu tout seul.
Ouais,
un peu tout seul à avoir écouté.
Ça arrive.
Et donc, ouais, ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Mais donc, il ne se laisse pas démonter pour autant. Michael Carcouz de Goose, puisqu'il vient de réenregistrer une des chansons de son album, une chanson avec du potentiel, puisque il souhaite qu'il soit enfin écouté et enfin reconnu. Donc
Est-ce que c'est une version deluxe?
Non, on a écouté récemment, il avait repris de façon complètement inutile un titre de Depeche Mode.
Ah oui, oui.
Voilà. Mais ça n'apportait pas grand-chose. Ici, c'est un rework, donc un retravail complet d'une de ses chansons qui a pour titre Only With You, et c'est donc Michael Carcouz qui, d'une part, célèbre les 20 ans de son groupe, mais aussi a toujours des ambitions en solo. Michael Carcouz.
C'est dommage que ça n'ait pas marché.
Non, mais c'est plutôt pas mal.
Ouais. La vie est injuste.
Hein. J'aime plutôt bien.
La vie est injuste. Ah.
On en a quasiment terminé pour aujourd'hui.
Oui.
Il nous reste le temps d'une petite.
On a été très musical
bluette.
Aujourd'hui.
Oui.
Avec un peu de fête de la saucisse, mais très musical.
Oui, même de la musique dans les séries, les films.
Oui, c'est ça. C'est ça. Et on ne l'avait pas. Prémédité. Rien n'est prémédité
non,
dans cette
tout situation. Ça, c'est les planètes qui s'alignent, qui nous font un signe.
Qui s'alignent.
Voilà. Merci à Guillaume de Smet. Merci, mon cher Hugues. On se retrouve demain
pour
la dernière de la semaine. Je voulais qu'on se quitte avec une chanson.
Oui.
Oui, puisque Ringo Starr.
L'ami Ringo. Moi, j'attends un biopic de. Ah, mais il va y avoir un biopic de Ringo.
Oui.
Ah, oui, un biopic des quatre Beatles séparément.
Ah oui, donc quatre biopics
faits par Sam Mendes. Oh là là.
Il y a donc un biopic de Ringo Starr, mais en attendant ce biopic, il y a un hippie de Ringo Starr.
Oh.
Il va sortir Crooked Boy, donc garçon malhonnête, garçon tricheur. Quoi. Cet hippie sortira le 20 avril pour le Record Store Day. Oh. Voilà, donc il a enregistré 4 titres, mais il l'a laissé à Linda Perry, l'ex Four Non Blondes, et qui écrit à peu près pour tout ce qui bouge, le soin d'écrire ces 4 titres. Donc il n'y a absolument pour rien, il est juste venu en studio pour s'exécuter. On va l'entendre. Et donc, en ouverture de l'arrivée de cette EP 4 titres le 20 avril, Ringo Starr nous gratifie d'un February Sky. À demain.
À demain.
À demain.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Audio.